l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
C'est un pilier de l'épopée des musiques noires que nous allons célébrer cette semaine. Figure éminente du label Blue Note, partenaire des légendes d'antan Wayne Shorter, Charles Mingus, Max Roach ou Eric Dolphy, ce batteur et vibraphoniste afro-américain est la mémoire vive d'un patrimoine jazz métis qu'il revendique sur chacun de ses albums. Il s'appelle Joe Chambers. Il est né en 1942 et à 82 ans, il continue de militer pour un multiculturalisme assumé. Le 4 avril 2024, il se produisait à Paris et nous avons pu assister aux répétitions. C'est à l'Écuge, un centre culturel parisien ouvert à toutes les formes d'art, que nous avons pu rencontrer ce solide octogénaire et évoquer avec lui son dernier album, Dance Cobina, qui s'inspire des rythmes afro-latins entendus durant sa prime jeunesse.
Well, I myself, and I've said this a thousand times, as far as the Latin flavor is in my blood.
Je l'ai dit maintes fois, l'influence afro-latine que vous ressentez dans mes compositions est en moi depuis toujours. Je me suis d'abord intéressé à la culture afro-cubaine, notamment le guaguancó. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'entendais toutes ces musiques latines à Philadelphie, où je vivais avec mes parents. Il faut dire que les États-Unis ont accueilli de nombreuses populations d'origine latine, et ce, bien avant ma naissance. À Philadelphie, par exemple, la scène musicale afro-latine était très vivace, et l'on entendait régulièrement à la radio le répertoire de tous ces musiciens. Je me souviens notamment de Joe Loco, qui était l'une des figures de ce mouvement musical. Cela dit, j'écoute tout type de musique. Je prends plaisir à savourer les œuvres classiques européennes, mais aussi le jazz américain et le rhythm and blues. Disons que la sonorité du patrimoine musical afro-latin que j'entendais à la radio m'a toujours attiré. Quand j'ai commencé à jouer des percussions, c'était à l'école. Je participais aux orchestres de mon établissement scolaire, mais j'étais davantage intéressé par le rhythm and blues. En fait, je me voyais devenir jazzman, car cette forme d'expression qu'on appelle le swing me paraissait plus intelligente. Et puis, subitement, je me suis rendu compte que personne n'était capable de jouer correctement les musiques afro-latines. À cette époque, je ne savais pas ce que la clave signifiait. C'est en arrivant à New York que j'ai compris qu'il s'agissait d'un rythme fondateur des musiques latines.
I didn't really learn what they call the claves. I didn't really learn that until I got to New York. I lived in Washington D.C. for 3 years, from 60 to 63.
J'ai vécu à Washington pendant 3 ans, de 1960 à 1963. Je jouais dans un groupe de jazz, mais nous étions totalement incapables de jouer les musiques afro-latines. Comme je vous le disais, c'est à New York que j'ai découvert ce rythme qu'on appelle la clave. C'est aussi à New York que j'ai rencontré quelques-uns de mes futurs bons camarades. Je pense notamment à McCoy Tyner, le pianiste de John Coltrane. Parallèlement, je liais amitié avec Steve Berrios et Raymond Tia, deux excellents percussionnistes d'origine latine, sans oublier Ray Armando. Vous avez certainement entendu parler du groupe Mboom, créé par le batteur Max Roach. À mon initiative, Steve Berrios et Raymond Tia ont rejoint l'orchestre. Je voulais qu'ils nous montrent la meilleure manière de jouer le guaguancó, la rumba, la batucada. C'est ainsi que j'ai appris à reconnaître tous ces rythmes et à utiliser la clave originelle.
Batucada, all of that, and that's where I learned the proper claves, what they call clave, to play those rhythms.
Thank you. Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout au long de cette émission, Joe Chambers est un musicien savant et un esprit vif. Le poids des années n'altérant rien sa réflexion et son discours d'expert. Chacun de ses albums exprime son attachement à l'histoire des musiques afro-planétaires. Il se veut le gardien d'un héritage métis sur le label Blue Note.
I have and I had a contract with Blue Note. I put out a record.
J'ai eu et j'ai toujours un contrat avec Blue Note. J'ai enregistré quelques disques pour ce label, dont Samba de Maracatu. C'était une manière pour moi d'inscrire la culture syncrétique dans ma musique. Le syncrétisme, c'est la synthèse de plusieurs matrices culturelles différentes. Il y a 2 ou 3 ans, alors que je réunissais des musiciens de jazz à New York pour essayer de constituer un répertoire original, j'ai reçu un coup de fil du pianiste Andrés Vial, qui est l'un de mes étudiants. Il m'a proposé de le retrouver à Montréal pour me faire écouter quelques-uns de ses projets. C'est là que j'ai découvert l'effervescence de la scène afro-latine. Il m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreux excellents musiciens latins et nous avons commencé à jammer ensemble. À partir de ce moment-là, mon projet purement jazz avait disparu et je réfléchissais sérieusement à créer un album de musique afro-latine. J'ai appelé les décideurs du label Blue Note et je leur ai dit « Oubliez mon album de jazz, nous allons plutôt enregistrer un album afro-cubain ». C'est ainsi que mon dernier album, Dance Cobina, a vu le jour. Le mot « Cobina » vient du Congo. Cela veut dire « danse » en lingala. C'est une composition d'Andrés Vial qui cherchait une idée de titre. En entendant la virtuosité de notre percussionniste congolais, Elie Miller Mabougou, j'ai tout de suite pensé au mot « Cobina ». Cela traduit parfaitement l'esprit de danse que nous voulions imprimer dans cet album.
I said, no, we got to put this in. And that's how Cobina came to be. And Cobina means dance. That's how it came about.
Alors qu'il évoquait les racines congolaises de son percussionniste, Elie Miller Mabougou, Joe Chambers a subitement pris un ton professoral pour nous éclairer sur son ancestralité africaine. Soyez attentifs, car ce qui suit relève d'un discours magistral d'histoire musicale et géopolitique.
Of course, I feel connected to Africa in the sense of African descent.
Je me sens évidemment totalement connecté à l'Afrique, car j'ai indubitablement des ancêtres sur ce continent. Pour autant, je ne me sens pas africain. Je suis d'abord américain. En disant cela, j'aborde un sujet épineux. Je ne veux pas feindre qui je ne suis pas. Je ne fais pas partie de ces Américains qui prônent le retour à la terre nourricière. Ce n'est pas ce que je recherche. Tâchons de présenter les choses d'une autre manière. Quand on parle de cultures africaines, quand on parle de musique et précisément de jazz, il faut impérativement évoquer 2 éléments essentiels à notre compréhension, le syncrétisme et la culturation. Pour essayer de simplifier mon propos, je vais prendre un exemple. Quand les colons portugais, espagnols et français ont emporté dans les cales de leurs navires des esclaves africains vers Cuba, Porto Rico, Haïti ou le Brésil, ils ont tenté de museler les rites et codes yoruba de ces populations soumises. Évidemment, ils n'y sont pas parvenus parce que les cultures africaines s'expriment par le rythme et une nouvelle identité hybride est née de cette rencontre afro-européenne. C'est ainsi qu'est née la Santeria ou le Candomblé. Ces rythmes sont la fusion de plusieurs cultures dont les matrices proviennent de populations qui n'ont pas suivi les règles et l'enseignement religieux de leurs oppresseurs, mais ont préféré vénérer leur divinité, leur dembala. Voilà ce que vous devez comprendre lorsque vous évoquez l'héritage africain des Américains.
Dambala in place. That is the meaning of all of those religions. So that's what you have to understand. The Spanish or the Portuguese and the French.
Les colons espagnols, portugais, français ont été finalement plutôt laxistes, si je peux m'exprimer ainsi, en laissant les esclaves africains jouer des tambours. Les autorités américaines, en revanche, ont toujours essayé de bâillonner les échos culturels de la population noire. Les États-Unis ont préféré la culturation, c'est-à-dire imposer l'acquisition de leur culture américaine aux esclaves africains. En dehors de la Nouvelle-Orléans, il était impossible sur le territoire américain de revendiquer son identité africaine. Il n'y a qu'un espace d'expression historique qui a permis l'expression des racines africaines aux États-Unis, c'est Congo Square, à la Nouvelle-Orléans. Les esclaves pouvaient danser et faire de la musique chaque week-end, mais soyons réalistes, danser n'était pas un passe-temps ludique, il s'agissait d'une revendication. Les Haïtiens, qui se retrouvaient à Congo Square, revendiquaient leur culture et leur identité propre. N'oublions pas que ce peuple a bataillé contre la colonisation française et a finalement été le premier à obtenir l'indépendance de sa terre grâce à Toussaint Louverture. Cette ferveur victorieuse s'exprimait également à Congo Square. Vous noterez d'ailleurs que le vaudou, hérité des cultures ancestrales africaines et haïtiennes, est toujours présent à la Nouvelle-Orléans. Les autorités ségrégationnistes américaines ont d'ailleurs cherché à museler toutes ces pratiques en interdisant pendant longtemps les tambours à Congo Square. Voilà la différence que je fais entre l'intolérance américaine et le laxisme des pouvoirs coloniaux dans les Caraïbes. Il faut prendre en compte ces réalités-là pour comprendre l'histoire culturelle afro-américaine. J'ai toujours essayé, à travers mes œuvres, d'imprimer ces rythmes échappés de l'ancestralité africaine pour que l'on prenne conscience de l'épopée métisse de tous ces peuples. Joe Chambers revendique son statut de citoyen américain, mais il ne renie pas la source africaine de son inspiration. Il s'est d'ailleurs intéressé aux cultures, modes de vie et spiritualités africaines pour maîtriser avec toujours plus de pertinence et de légitimité les rythmes issus de ce continent, berceau de l'humanité.
I've been to North Africa, I've been to Egypt.
Je me suis rendu en Afrique du Nord, notamment en Égypte et en Tunisie. J'ai d'ailleurs étudié le kémitisme. Ce sont les croyances et pratiques héritées de l'Égypte ancienne. Cela fait partie de ma vie désormais. J'en discutais justement avec un jeune percussionniste camerounais que j'ai rencontré à Munich récemment. Il me disait combien la corruption gangrène l'esprit des dirigeants africains. Pour lui, la situation est inextricable tant que la spiritualité ne l'emporte pas sur les considérations politiques. Je pense cependant que son propos est justement très politique, car tant que nous ne parviendrons pas à bâtir des ponts entre les cultures, l'inertie l'emportera toujours. Pensez à ce que Dizzy Gillespie et Chano Pozo ont réussi à faire ensemble à la fin des années 40. Ils ont réussi à créer une fusion entre le jazz et les musiques latines à une époque où cela semblait impossible. Le saxophoniste Mario Bauza fit de même à Cuba dès les années 30. La vibration rythmique que tous ces gens ont insufflée il y a presque 100 ans a contribué à l'essor de la démocratie, de la spiritualité et de la tolérance. Mon rythme préféré, c'est le guaguanco de Cuba, qui me fait profondément vibrer.
Rhythmically, it's vibrant. It's no denying. Especially for me, my favorite is Cuban guaguanco. It's just vibrant rhythms.
Joe Chambers évoquait il y a quelques instants l'esprit frondeur de ses aînés, Dizzy Gillespie et Chano Pozo, qui ensemble ont dépassé les limites du jazz pour créer une nouvelle musicalité hybride inspirée des rythmes afro-cubains. Cette audace, à une époque où toute tentative de croiser les cultures était malvenue aux États-Unis, relevait de l'exploit tant il était périlleux de contourner les règles ségrégationnistes imposées à la population noire. Les jazzmen ont d'ailleurs souvent été des trublions face au conservatisme de la société américaine du XXe siècle. Cette défiance vis-à-vis des normes réactionnaires de l'administration et des autorités s'est parfois transformée en un militantisme politique auquel notre invité, Joe Chambers, a assisté sans pour autant y prendre part.
I wasn't thinking about anything back in those days, but
Je ne réfléchissais pas vraiment à la dimension politique de mon engagement artistique à cette époque. Archie Shepp et beaucoup de mes compagnons d'alors étaient perçus comme des musiciens d'avant-garde. Ils étaient des activistes très impliqués. Moi, je regardais tout cela avec une certaine distance. J'essayais surtout de devenir un bon musicien. Quand le mouvement Free Jazz est apparu, j'étais déjà un musicien confirmé, mais je n'essayais pas de jouer cette musique-là. À New York, il y avait plusieurs familles de musiciens. Il y avait les adeptes de Miles Davis, dont je faisais partie. Il y avait les inconditionnels des grands orchestres swing. Et il y avait les amateurs de free jazz, que je n'ai d'ailleurs jamais critiqué. Mais je considérais, comme le disait le journaliste et critique musical Stanley Crouch, que les vrais avant-gardistes étaient les musiciens signés sur le label Blue Note, c'est-à-dire Wayne Shorter, Bobby Hutcherson, McCoy Tyner, et j'ose le dire, moi-même.
The real avant-garde was what we were doing, me, Wayne Shorter, Bobby Hutcherson, McCoy, on Blue Note Records. He said that's the real avant-garde. Musicians that was in that Blue Note group, myself, Sam Rivers, Freddie Hubbard, McCoy, Tyner.
Tous ces musiciens issus du label Blue Note, Sam Rivers, Freddie Hubbard, McCoy Tyner et moi-même, étions des musiciens complets. J'entends par là des musiciens capables de jouer dans des contextes sonores très différents. Un bassiste avant-gardiste comme Richard Davis était également capable de jouer dans l'orchestre du Radio City Music Hall. Eric Dolphy, qui était perçu comme un musicien de free jazz, jouait dans des orchestres symphoniques. Tout ça pour vous dire que nous n'étions pas des excentriques. Nous étions tout à fait capables de jouer dans les grandes salles de Broadway ou d'accompagner les grandes chanteuses d'alors. Par conséquent, je ne dirai jamais de mal de mes amis musiciens qui évoluaient dans l'univers du free jazz. Même Archie Shepp était tout à fait capable de jouer de manière plus conventionnelle, mais il a choisi de s'exprimer autrement. Charles Mingus, c'est une autre histoire. Il voulait être un artiste politique. Il était un compositeur plus qu'un interprète. Pour lui, la composition devait exprimer son engagement citoyen. Il préférait le rôle d'orchestrateur à celui de contrebassiste. Ce n'était pas facile de travailler avec lui, mais jouer à ses côtés, dans son orchestre, fut une expérience très intéressante.
And very hard to work with. But it was interesting playing in the orchestra with him. It was.
Tout en accompagnant la destinée de ses contemporains, Joe Chambers observait leurs agissements, constatait leur prise de position, mais son objectif n'était pas politique, il était artistique. Il voulait continuellement parfaire ses connaissances pour justement comprendre son époque et les enjeux de cette période troublée aux États-Unis. Alors, avec constance et rigueur, il étudiait les rythmes, les tempos, les cadences africaines et les mélodies, les harmonies, les œuvres classiques européennes.
Of course, the Africans have a form of harmony and rhythm.
Alors oui, les Africains ont en eux un sens inné de l'harmonie et du rythme, mais leurs différentes cultures ne reposent pas intrinsèquement sur le développement de l'harmonie et de la mélodie, comme c'est le cas pour les Européens qui, dans la musique classique, ont parfaitement maîtrisé la science de l'harmonie. C'est la raison pour laquelle je considère que le jazz est une musique essentielle, car elle est au carrefour de ces deux approches, africaine et européenne. Le pianiste Barry Harris disait que les musiciens de jazz ont magnifié l'harmonie et la mélodie. mélodies. Les jazzmen sont des artistes complets qui ont une connaissance parfaite de la musique classique européenne. Pour être capable de jouer une musique aussi exigeante que le jazz, il faut avoir des clés de compréhension particulièrement solides. Il faut savoir appréhender le rythme et l'harmonie, la composition comme les changements d'accords. En d'autres mots, les cultures africaines et européennes. Il est impératif de maîtriser ce savoir.
So you have to have that knowledge of it. I'll give you a little story.
Je vais vous raconter une histoire. J'ai joué il y a très longtemps avec le trompettiste sud-africain Hugh Masekela. C'était en 1963 lorsque Harry Belafonte l'avait invité à rejoindre les États-Unis pour échapper à l'apartheid dans son pays. Nous nous sommes retrouvés en studio avec Larry Willis au piano et Hugh Masekela à la trompette. J'avais écrit quelques arrangements sur diverses compositions et quelle ne fut pas ma surprise de voir Hugh Masekela incapable d'interpréter ce répertoire jazz. J'ai pris conscience du décalage culturel qui existait entre lui et moi lorsque Harry Belafonte, qui assistait à nos répétitions, lui a conseillé de ne pas s'entêter à vouloir jouer du jazz. Il l'a plutôt encouragé à jouer sa musique, celle de sa terre natale, l'Afrique du Sud. Hugh Masekela ne pouvait décemment pas jouer comme Clifford Brown. Il ne pouvait pas jouer comme un Américain. Et pourquoi aurait-il dû imiter une culture musicale qui n'était pas la sienne ? Après toutes ces années, je n'ai rencontré qu'un seul musicien africain capable de jouer le jazz comme nous le faisons aux États-Unis. Il s'appelle Lionel Lweke. Il est le seul guitariste africain capable de jouer du jazz comme nous l'entendons aux États-Unis. Les musiques africaines ne reposent pas sur le même système harmonique. Il n'y a pas de changement d'accord constant. Dans les musiques dites occidentales, l'harmonie évolue constamment. Les musiques africaines ne répondent pas à ces règles d'interprétation de la même manière. Même Abdoulaye Ibrahim, le célèbre pianiste sud-africain, ne suit pas les codes du jazz. De toute façon, ce n'est pas une obligation, comme Harry Belafonte le faisait remarquer à son camarade Hugh Masekela. Il faut être soi-même lorsque l'on joue une musique. C'est en tout cas la différence principale que j'ai notée entre les musiciens africains et américains.
Be yourself, yeah. That's the difference there.
Lorsque nous avons assisté aux répétitions et aux concerts de Joe Chambers en quintette le 4 avril 2024 à l'Écuge à Paris, nous avons constaté qu'il passait plus de temps au vibraphone qu'à la batterie. Est-ce son grand âge qui lui impose désormais ce choix artistique ? Veut-il se rapprocher du balafon, l'ancêtre du vibraphone ? Cherche-t-il une nouvelle manière de faire jaillir le rythme ancestral africain ? Une fois de plus, sa réponse fut plus complexe que nos simples interrogations. Je ne suis pas seulement un batteur, en tout cas plus maintenant. Je ne me vois plus comme un accompagnateur derrière un chanteur ou une chanteuse. Je suis davantage un vibraphoniste. J'utilise des maillets plutôt que des baguettes. Et puisqu'on parle de rythme, je vous informe que je vais bientôt faire paraître un livre qui s'intitulera Cross Rhythm. J'y évoque notamment une notion que j'appelle l'ennemi du rythme. De quoi s'agit-il ? Je vais vous expliquer. Les tambours ont toujours été les ennemis des esprits étriqués européens. Quand les esclaves ont imprimé leurs rythmes africains à Congo Square, dans la ville de la Nouvelle-Orléans, ils étaient instantanément perçus comme les ennemis de la bienséance culturelle des colons européens. Les tambours étaient devenus l'ennemi de la doctrine européenne coloniale. Que vous le vouliez ou non, cette façon de penser a résisté à l'érosion du temps et continue de polluer nos modes de pensée actuels.
As the enemy, and they were the enemy. Now that's a mindset that exists to this very day.
Si nous avons pris beaucoup de plaisir à pouvoir assister aux répétitions de ce géant du jazz, nous avons aussi pu noter l'érosion du temps sur son énergie corporelle. Joe Chambers se préserve, se ménage et laisse beaucoup d'espace à ses musiciens pour s'exprimer, lui donnant ainsi l'occasion de faire une pause. Certes, son vœu de soutenir les jeunes musiciens est palpable durant les concerts, mais les décennies de tournées, d'enregistrements commencent sérieusement à entamer son insatiable tonicité.
82, I feel 82. Look, I've been coming to Europe since 66, 67.
Je vais avoir 82 ans et je ressens le poids des années. Depuis 1966 ou 67, je n'ai cessé de tourner dans le monde entier. À l'époque, nous emportions avec nous, dans le train, nos instruments de musique, y compris les batteries, les vibraphones. Honnêtement, cela ne nous dérangeait pas trop, car nous étions jeunes et pleins d'énergie. De toute façon, nous n'avions pas le choix. Aujourd'hui, je serais bien incapable de me plier à de telles contraintes. Je peux vous dire que je ressens profondément mes 82 ans quand je voyage. Prendre l'avion devient un effort qui me pèse, réellement. Quand je dis à ma famille, principalement à mes sœurs, que j'envisage d'arrêter les tournées, elles me répondent qu'elles n'y croient pas. En tout cas, j'insiste désormais pour que le niveau de confort de mes déplacements soit respecté, car j'ai besoin de me reposer dans de bons hôtels, de voyager confortablement. Je n'ai pas le train de vie de Michael Jackson. Je dois donc trouver le moyen d'atténuer la fatigue que représentent les tournées incessantes. Je ne peux pas continuer ainsi à mon âge.
We're not like it's not like we're not like Michael Jackson or any of these people. I can't do that much more. It's uncomfortable at this age.
Quelques notes de Dance Cobina, le dernier album en date de Joe Chambers, paru sur le label Blue Note. Nous vous recommandons sincèrement d'aller découvrir l'ensemble de la discographie de ce musicien hors pair qui a joué avec la terre entière et mérite toute notre attention et notre respect. Nathalie Laporte a d'ailleurs passé beaucoup de temps à sélectionner les titres que vous avez pu entendre brièvement durant cette émission, tant le patrimoine sonore de Joe Chambers est imposant. La réalisation de cette épopée n'en est que plus belle. Merci aux équipes de l'Écuge à Paris de nous avoir accueillis pour pouvoir vous concocter ce reportage palpitant et merci à Joe Chambers d'avoir longuement répondu à nos questions. La semaine prochaine, on vous emmène en Suisse où se sont produits de nombreux fantastiques musiciens lors de la 41e édition du QI Jazz Festival. Vous entendrez notamment quelques échos du concert du collectif Black Lives From Generation to Generation emmené par le bassiste Reggie Washington. Vous savez tout, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.